Panorama Économique.
Bonjour et bienvenue à Panorama Économique sur Radio Capi. Ce magazine retrace l'actualité économique de la semaine, commentée avec un invité. Mais avant de commencer, voici le sommaire. Le FMI propose à la RDC des solutions pour revaloriser la monnaie nationale face aux devises. Au cours d'un séminaire tenu à Kinshasa, le Fonds monétaire international a relevé notamment la stabilité du cadre macroéconomique pour réussir les processus de dédollarisation. Et puis la communauté économique des États de l'Afrique centrale tient à la zone de libre-échange dans ses États membres. Les experts de la CIAC se sont réunis à Kinshasa pour étudier l'opérationnalisation du système dans la région. Nous parlerons également de cette pression qui monte à Kopekimara, Kinshasa, après les autres villes du pays. Les clients demandent à cette coopérative de débloquer leur compte. Depuis maintenant 7 mois, ils ne savent plus y accéder pour retirer leur argent logé dans différentes agences. Paul Matendo et François Kadima vous présentent Panorama économique pour ce samedi. Bonjour Paul.
Bonjour François.
Un invité pour commenter l'actualité économique, c'est Alexandre Chouet. Il est enseignant en économie à l'université protestante au Congo, UPC. Il vient de publier un livre sur la croissance économique, une perspective africaine. Il nous parlera également de son œuvre, donc, dans ce magazine. Monsieur Alexandre, bienvenue dans Panorama économique pour ce samedi.
Merci.
Panorama économique, le dossier.
Rebonjour. Prenons notre premier dossier de la semaine. Dédollarisation partielle et politique monétaire, cas du Pérou. Ce thème était au centre du séminaire organisé à Kinshasa par le ministère de l'économie et commerce en collaboration avec le Fonds monétaire international FMI. Au cours de cette rencontre, Oscar Melado, représentant au pays du FMI, a indiqué que la stabilité macroéconomique et des institutions fortes constituent le préalable dans les processus de dédollarisation. Paul Matendo a assisté à cette rencontre.
C'était un échange d'expériences entre le Pérou et la République démocratique du Congo en matière de dollarisation. Selon Oscar Melado, beaucoup de similitudes existent en effet entre les deux pays. À en croire Oscar Melado, les phénomènes de dollarisation tirent la même origine dans les économies péruviennes et congolaises. Il s'agit du déséquilibre macroéconomique et monétaire, ce qui a déclenché l'hyperinflation dans ces deux pays. Le numéro 1 du FMI en République démocratique du Congo suggère que le Congo qui Kinshasa se dote des institutions fortes pour gagner les paris de la dédollarisation.
Le dossier préalable, je dirais que est d'avoir des institutions fortes, particulièrement les banques centrales.
De son côté, le ministre de l'économie et commerce retient que l'expérience péruvienne devra être mise à profit pour sortir la RDC de ces phénomènes. Jean-Paul Nimoyato.
C'est un échange qui me paraît très fructueux parce que nous avons pris bonne note de l'expérience du Pérou et donc ça nous permettra de réajuster les tirs.
D'autres rencontres sont envisagées entre les deux parties pour approfondir l'expérience du Pérou qui s'est tirée presque à 70% du phénomène de dollarisation, a ajouté Jean-Paul Nimoyato.
Voilà, merci Paul Matendo. Je rappelle que notre invité dans Panorama économique ce samedi, c'est Alexandre Chouet. Il a publié un livre sur la croissance économique, une perspective africaine. Voilà, monsieur Alexandre, vous avez suivi avec nous ce premier dossier. Dédollarisation, c'est un système au Congo, ça il faut le savoir. Le FMI pense que pour réussir le processus, il faut la stabilité du cadre macroéconomique. Un commentaire.
Le phénomène de dollarisation trouve son origine dans le manque de confiance que la population a dans la monnaie nationale. La monnaie doit remplir ses fonctions classiques. Et lorsqu'elle n'arrive plus à remplir ses fonctions, les acteurs au niveau de l'économie se départissent d'elle pour utiliser une autre unité de réserve. Et généralement, c'est le dollar américain. Et donc, c'est un problème de confiance. La gouvernance économique ayant dérangé durant plusieurs années, au niveau du gouvernement, tout comme au niveau de la banque centrale, la population a commencé à se départir progressivement des moyens nationaux pour utiliser le dollar américain comme étant réservoir ou réserve de valeur. Et donc, c'est comme ça que le phénomène a vu le jour. Et la gouvernance posant problème durant des années, le phénomène s'est développé de manière très sensible durant les années 90. À tel point qu'aujourd'hui, la politique monétaire est devenue quelque peu inopérante. Comment ça? C'est que la politique monétaire, c'est l'ensemble des mesures que le gouvernement prend afin d'ajuster la quantité de monnaie en circulation et réguler la marge des commis pour faire avancer l'économie. Mais lorsqu'on a une quantité importante d'argent en circulation libellée en monnaie étrangère et que la banque centrale n'a pas le contrôle sur cette quantité de devises qui circule dans l'économie, automatiquement, elle devient incapable de contrôler la quantité de monnaie en circulation. Et c'est ça le principal défi. Il faudrait que l'on soit capable de contrôler la quantité de monnaie en circulation pour justement pouvoir réguler correctement la marche de l'économie. Donc c'est un problème qui demande à être résolu rapidement.
Alors, quel est le rôle que doit jouer la Banque centrale selon vous pour que les investisseurs, notamment les secteurs privés, aient confiance en cette monnaie?
Pour qu'il y ait stabilité macroéconomique, il faudrait que la politique budgétaire et la politique monétaire soient menées de manière harmonieuse. Et étant donné que la politique monétaire est faite par la Banque centrale, il faudrait que la Banque centrale et le gouvernement puissent constamment travailler main dans la main pour améliorer la gestion macroéconomique du pays et rassurer davantage en stabilisant davantage le cadre macroéconomique et en rendant, si je veux dire, les politiques macroéconomiques plus efficaces et en donnant des signaux très positifs qui pourraient justement ramener les gens à croire à la bonne volonté des décideurs. Dans les années 90, je me rappelle encore, il suffisait qu'on dise que la Banque centrale a eu à prendre telle décision ou mener telle action pour que les mamans au marché revoient directement à la hausse les prix. Comme pour dire qu'on ne faisait plus confiance à la Banque centrale et il a fallu donc prendre des années pour restaurer ce crédit. Et aujourd'hui, le crédit a été restauré, mais il faudrait approfondir les réformes pour que les gens croient que réellement on est en train de faire une rupture nette entre la situation actuelle et la situation d'autrefois.
Notre deuxième dossier de la semaine, c'est la tenue à Kinshasa des travaux du Comité technique, finance et commerce de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CIAC, Paul Matendo.
Ces travaux qui ont réuni les experts venus des 10 pays membres de la sous-région vont se pencher notamment sur le projet de code de douane, la révision du mécanisme de financement autonome de la CIAC. Selon le secrétaire général adjoint de la CIAC, l'objectif est de rendre opérationnelle la zone de libre-échange dans la sous-région. Roger Tsungi.
Il y a un certain nombre de textes communautaires qui feraient que lorsque une décision est prise, je ne sais pas, en matière d'importation, en matière de définition de la part originelle d'une marchandise d'un État membre, que cette décision s'impose à l'ensemble des 10 pays de la zone. C'est en fait ramener au niveau régional un certain nombre de décisions qui jusqu'à présent sont faites par État. Et donc si un opérateur économique est suffisamment important pour couvrir plus d'un État, il avait des démarches à faire dans chacun des États où il veut s'implanter. Maintenant, il n'aura plus qu'une démarche à faire pour qu'elle soit opposable à toutes les administrations de la zone.
Voilà, M. Alexandre Chouet, vous avez suivi le secrétaire général adjoint de la CIAC, qui est en train de mettre une idée telle qu'il faut créer une zone de libre-échange dans les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Alors, vous êtes économiste. Ça va être quoi les implications économiques de ce système, l'opérationnalisation de ce système dans le pays membre de la CIAC?
Cette proposition s'inscrit dans le cadre de la dynamique selon laquelle évolue actuellement le monde. L'économie mondiale est en train d'évoluer sur la logique des grands ensembles. Les pays sont en train de se réunir autour de certains intérêts afin de construire une force et aller de l'avant. Et donc si nous apprenons la chose en ces termes, il faudrait dire que c'est une bonne idée que les pays africains, plus particulièrement les pays membres de la CIAC, puissent se retrouver autour d'une table afin de construire une force et aller de l'avant. Mais cependant, de telles mesures ou de tels processus doivent être préparés suffisamment bien pour que les choses réussissent. Il faudrait que chaque pays qui accepte de faire partie de cette zone de libre-échange puisse d'abord mettre de l'ordre dans son système de gestion des finances publiques et également que chaque pays revoie correctement le fonctionnement de son système fiscal. Parce qu'après, il faudrait faire quoi? Il faudrait mettre ensemble différents systèmes. Et si nous n'avons pas les mêmes systèmes fiscaux, on aura du mal à mettre en œuvre le système que l'on veut faire pour la région. Et donc là, ce sera déjà un problème. Donc, il y a plusieurs préalables qu'il faudrait relever et préparer correctement les choses. Mais il faut aussi noter une chose, c'est que pour que l'on puisse réussir dans de telles organisations, il faudrait que chaque pays puisse avoir analysé correctement sa situation. Aujourd'hui, si la RDC accepte de participer à une telle zone de libre-échange, eh bien, elle devra renoncer en partie à certaines de ses recettes, particulièrement les recettes douanières.
Tout à fait.
Quand vous voyez la structure des finances publiques actuellement, les recettes douanières occupent une place de choix. Est-ce que facilement le pays pourra compenser ce manque à gagner au niveau douanier par les bénéfices du libre-échange qui va se passer dans la zone? Il y a beaucoup de questions. Il ne faut pas aller vite en besogne. Il faut prendre le temps de réfléchir à suffisance pour connaître les conséquences et les coûts et ensuite faire une analyse cost-bénéfice pour voir si, en termes nets, le pays va gagner ou non. Et là encore, il faut faire remarquer une chose, c'est que nous avons, nous, un problème au niveau de notre participation dans les grands ensembles. La RDC est membre de plusieurs communautés économiques régionales. Et des fois, les intérêts des uns et des autres entrent en conflit. Or, nous sommes, nous, à l'intercession. Comment est-ce qu'on pourra gérer ou fédérer cette divergence d'intérêts?
Est-ce que ce n'est pas à cause de sa position géographique?
Oui, mais on doit opérer des choix. Position géographique, oui, mais nous devons opérer des choix et regarder ce qui réellement va profiter au pays, parce qu'il est question de voir les intérêts de la RDC.
Autre actualité de la semaine. Après Goma, Bukavu, Kindu et Kisangani, c'est le tour de membres de la coopérative Imara, section Kinshasa, de lever les tons. Ils ont organisé un sit-in devant les installations de cette coopérative, c'était lundi. Une façon pour ces hommes et femmes d'exiger la rouverture de leurs comptes. Selon les sources trouvées sur place, ces clients ne savent plus accéder à leurs comptes, épargne depuis plus de 7 mois. Paul Matendo était sur place.
Ambiance de nervosité ce lundi matin dans les installations de la COPEC Imaram. Et pour cause, cette coopérative ne sait plus, selon les clients trouvés sur place, répondre à leurs attentes. Témoignage des membres qui attend l'évacuation de son père à l'étranger pour de soins.
Papa, bon, j'ai 14 500 dollars.
J'ai beaucoup d'argent ici, plus de 14 000 dollars. Entre temps, mon frère est très malade. Je demande à Imara de me signer une décharge, qu'il soit responsable de tout.
Même son de cloche du côté des PME, membres de la coopérative.
Nous, on a espéré, en tant qu'opérateur économique, épargner là-bas un jour, recevoir des crédits. Mais maintenant, tout ce que nous avons épargné là-bas, nous ne parvenons pas à accéder à nos comptes. Nous avons des obligations envers l'État, puisque nous sommes de la PME. Mais comment nous allons fonctionner?
Ce n'est pas avec ce que nous pouvons mener comme action ici. On va faire partir les membres du comité de gestion, mais il faut que cette gestion soit une décision politique pour que ces gens-là puissent quitter et donner la chance aux autres de venir diriger l'entreprise pour que nous puissions entrer en position de notre argent.
Les gérants de la coopérative à Kinshasa affirment que l'argent est disponible, mais ne saura pas couvrir le besoin de tous les clients. Pierre Arangui.
Un problème avec les membres. Ils veulent retirer leur argent.
Et l'argent, il y en a ou il n'y en a pas?
Il y en a, oui, mais ce n'est pas suffisant par rapport à leurs besoins.
Pour l'instant, les clients s'en remettent à la Banque centrale du Congo et aux autorités gouvernementales pour débloquer la situation. En réaction à ces revendications, la Banque centrale du Congo souligne qu'elle prévoit un plan de redressement de la coopérative Imara. Les directeurs des opérations de la BCC parlent notamment de changer les dirigeants de la COPEC Imara et de rétablir les clients dans leurs droits. Jean-Louis Kaimbe.
Nous avons dressé un plan d'action. Et ce plan d'action comporte plusieurs mesures et en plusieurs étapes. La première étape, c'était celle qui consiste d'abord à arrêter l'hémorragie, c'est-à-dire faire en sorte que la situation ne se détériore plus. Et donc, nous avons donc essayé de pousser pour que, d'encadrer la première action qui visait à ce qu'on puisse changer des équipes qui étaient en place. Et donc, il y a déjà une nouvelle équipe dirigeante à Kindu et à Bukavu. Après donc le mode de changement des équipes dirigeantes, nous allons passer à la deuxième étape, donc un plan de redressement, pour rétablir dans les meilleurs délais les grands équilibres au niveau de ces structures.
Les clients membres de cette coopérative disent que la coopérative attend des liquidités au niveau de la Banque centrale pour répondre aux besoins des clients.
Il n'est pas question tout de suite que la Banque centrale injecte la liquidité. Nous injectons de la liquidité, nous prêtons de la liquidité aux banques. Mais ce que nous pouvons rassurer, c'est que, bon, globalement, nous sommes en train de voir la liquidité globale de ces institutions pour que nous arrivons à l'étape où nous devons rembourser, que ces institutions soient en mesure de rembourser.
Monsieur Alexandre Chouet, une coopérative qui n'a pas de liquidité pour ses clients, qui ont des comptes bloqués, et la banque qui pense qu'il faut changer les dirigeants Donc il y a plusieurs villes, nous avons cité Goma, Bukavu, Kindu, Kisangani également, Kinshasa, où il y a des problèmes. Quelle lecture faites-vous de cette situation avec cette coopérative? Également, il y a des banques où il y a tels genres de problèmes.
En regardant de près la situation, nous comprenons qu'il y a un problème sérieux de la surveillance du système financier national. Comment est-ce que ce problème a pu s'installer progressivement dans tel territoire, telle province, ainsi de suite, jusqu'à atteindre Kinshasa? Dès qu'on avait eu à apprendre qu'il y a eu déjà un malaise au niveau d'une région, on aurait dû débuter l'action. Ne fait pas attendre que le problème se propage pour envisager une solution aujourd'hui.
Vous pensez donc que la Banque centrale n'a pas fait son travail ou ne fait pas très bien son travail?
Je pense qu'elle aurait dû déjà intervenir lorsque un premier cas a été signalé. Il ne fait pas attendre que la situation devienne assez généralisée pour que l'on puisse intervenir. Et là, ça montre qu'il y a un problème de surveillance au niveau du système. Et de tels problèmes arrivent généralement lorsque les normes de gestion prudentielle d'une situation financière ne sont pas respectées. Et dans ce qui est arrivé, c'est quelque part, il y a eu un problème. Il faudrait donc veiller à ce que les choses puissent revenir à la normale.
Donc, ça voudrait dire que notre pays n'a pas une bonne politique de gestion des banques sur la Banque centrale? Parce qu'avec cette situation, ça inquiète quand même.
Il faudrait renforcer les mécanismes de surveillance au niveau du système financier. Et même la crise financière internationale que nous avons connue il y a quelques 2-3 années ici, justement, c'est le fait d'une faiblesse dans le système de surveillance financier.
Comment vous pouvez comprendre, par exemple, que quelqu'un qui a épargné 50 000 dollars, lorsqu'il va réclamer son argent, on lui donne 50 dollars?
C'est un problème parce que, généralement, lorsque une institution financière collecte de l'épargne, la banque centrale, en tant que patron du système financier, impose à chaque banque de garder une réserve afin de faire face aux éventuels retraits de fonds du client. Mais lorsque le client rentre pour prendre son argent et qu'il n'arrive pas à accéder à son dû, là, il y a un problème. Est-ce qu'on a respecté les normes en la matière ou non?
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques nouvelles de la semaine en bref. La Banque centrale du Congo a décidé de maintenir les taux directeurs à 2%. C'est ce qui ressort de la réunion du comité des politiques monétaires CPM tenue dernièrement à Kinshasa. Deo Gracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo et président du comité des politiques monétaires, souligne que cette décision tient compte de l'évolution de la croissance économique en RDC.
L'élargissement de l'assiette fiscale, la lutte contre la fraude fiscale et l'acquisition d'un système informatique performant, voilà des propositions du ministre des Finances à la Direction générale des impôts. Patrice Kitebi s'exprimait ainsi samedi dernier lors de la clôture du séminaire des directeurs des impôts. Il estime que ces pistes de solutions permettront à la DGI d'atteindre ses assignations budgétaires 2014, contrairement à l'exercice 2013. Les agents de la RVA de Béni sont en grève depuis jeudi dernier. Dans un mémorandum adressé à la direction générale de la RVA, les grévistes réclament leur salaire impayé depuis plusieurs mois. L'administrateur directeur général de la RVA parle d'un problème local, mais rassure que tout est mis en œuvre pour la prise en charge de ces passifs sociaux.
Nous allons rester au Nord Kivu, où l'autorité provinciale est décidée à saisir les différents postes frontières. Donc, compte cette province, de 1015 agents actifs, seuls 328 ont été maintenus. Une action qui vise à éradiquer les tracasseries au niveau des douanes, ports et aéroports. C'est en application du décret présidentiel de 2002. Déjà, les agents habilités à travailler à ces différents postes sont dotés de gilets numérotés, des mesures qui entraînent une satisfaction des opérateurs économiques à Goma. Voilà, nous allons demander à Alexandre Chouet, qui est notre invité, de faire un commentaire sur l'une ou l'autre actualité passée tout à l'heure.
Ok, alors premièrement, je parlerai du taux d'intérêt de la Banque centrale.
À 2%, oui.
Oui. La monnaie a été introduite au niveau de l'économie pour faciliter le bon dénouement des transactions. Donc il faut établir une correspondance entre la quantité de monnaie à mettre en circulation et le volume d'argent que les agents économiques sont appelés à faire pour que les choses se passent bien. Lorsqu'il y a un manque d'équivalence entre les deux, soit il y a inflation, soit il y a déflation. Et les deux mots ne sont pas corrects. Donc il faut veiller à ce qu'il y ait équivalence entre la quantité de monnaie en circulation et le volume de transactions à effectuer. Alors, dans le contexte actuel de la RDC, où l'économie est en train de faire de la croissance, la politique monétaire devrait consister justement à augmenter la quantité de monnaie conformément aux besoins exprimés par celle-ci. Il faut donc veiller à ce que l'on puisse donner suffisamment de moyens à l'économie. Et lorsque la Banque centrale revoit à la baisse son taux d'intérêt directeur, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que la Banque centrale accorde aux banques commerciales la possibilité de recourir à son guichet de refinancement pour obtenir des prêts. Et de la sorte, donc, les banques commerciales pourront à leur tour accroître le volume de crédit qu'elles octroient à leurs clients. Dans une politique monétaire expansionniste, et généralement, elle se justifie par le fait que l'économie est en phase de croissance.
Alors, vous parlez justement de la croissance économique. Tout le monde le dit actuellement. Il y a croissance économique, il y a stabilité, cadre macroéconomique. Quelqu'un, un observateur, disait qu'on ne mange pas la stabilité macroéconomique.
Oui, effectivement, il me semble qu'il est vraiment important que l'on puisse apprendre aux gens qu'est-ce qui se passe réellement, parce que le concept de croissance semble déranger beaucoup de gens. Je pourrais expliquer ça à travers une petite illustration. Nous sommes dans une collectivité où un ménage produit à première année 10 sacs de maïs. L'année qui suit, la collectivité produit 12 sacs de maïs. En termes nets ou réels, la production est passée de 10 à 12 sacs. De cet accroissement de la production, c'est ce que nous appelons la croissance économique.
Tout à fait.
Donc, en termes simples, la croissance économique se définit comme étant un accroissement du niveau de la production au sein de l'économie. Mais maintenant, il faut noter ceci. Lorsque le produit de l'économie augmente, la richesse sociale augmente aussi. Mais le vrai problème, c'est celui de savoir comment est-ce que cette richesse est répartie entre les différents acteurs au sein de l'économie. Et aussi, l'État qui est un acteur important, lorsque on a la croissance, ses revenus augmentent. Comment est-ce que l'État gère ses recettes pour aider la population à vivre dans des conditions de vie meilleures? Ce sont là les grandes questions qui se posent. Et en RDC, moi je puis vous dire que la croissance est bel et bien au rendez-vous. Et pour le justifier, je puis vous donner quelques exemples. L'analyse que nous menons, nous économistes, établit que le premier secteur qui contribue à la croissance actuellement, c'est le secteur minier en RDC. Et quand vous allez dans le secteur, vous remarquez qu'il y a des firmes telles que Tenke-Fungurume qui ont investi dans le pays pour plus d'un milliard de dollars américains. Rien que par le fait que Tenke-Fungurume, en investissant, achète des biens d'équipement à l'étranger et ramène au pays. Mais c'est que Tenke-Fungurume est en train de créer de la richesse ici, parce qu'il y a un transporteur qui amènera les équipements. Arrivé au port, on va payer les frais d'accostage, la douane va percevoir quelque chose, et ensuite les biens vont entrer. Et quand l'entreprise va débuter sa activité, il y aura des Congolais qui vont travailler, et avec des salaires. Donc on peut dire qu'il y a eu déjà quelque chose qui a été fait là-bas. Il n'y a pas que Tenke-Fungurume, mais il y a Banro, il y a Kibali Gold Mine, et ainsi de suite. Donc bref, il y a une dynamique dans le secteur minier.
Est-ce que vous en parliez également dans votre livre que nous avons ici? Le livre s'intitule « Croissance économique, une perspective africaine ». Vous parlez de ces terres minières qui d'ailleurs ne contribuent pas trop au budget. Il y a plus la DGI, la DGDA, les régies financières qui sont tout le temps poussées à générer des recettes, faire des recettes pour le trésor, alors qu'il y a également les mines, comme vous le dites.
Oui, il y a un problème, effectivement, de collecte des recettes, parce que à plus d'une reprise, le Fonds monétaire, certains partenaires extérieurs, nous ont fait remarquer que le pays a un grand potentiel dans le secteur des ressources naturelles, particulièrement dans le secteur minier, mais les recettes que nous mobilisons sont de loin inférieures au potentiel. D'aucuns estiment que le potentiel serait de 20% du PIB, mais effectivement, ce qu'on collecte, c'est 5%. Et ça montre donc qu'il y a un besoin de réforme dans notre système fiscal. Il faudrait renforcer les administrations fiscales pour donner au pays plus de ressources. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra avoir un budget digne de ce pays.
Mais il y a d'autres observateurs, d'autres analystes aussi qui disent que c'est le secteur agricole qui doit booster, qui ne peut que booster l'économie du pays.
L'agriculture occupe près de 70% de la population congolaise.
Ouais.
Si on s'en tient à cet élément, je puis dire que l'agriculture peut nous aider à répondre d'abord au problème de la faim et donner des emplois aux gens. Mais à terme, il faut dire que l'agriculture a une faible productivité comparée à d'autres secteurs d'activité. Et quel est alors le niveau des salaires payés dans le secteur agricole? Et quel est le niveau des salaires payés dans le secteur minier? Et quel est le niveau des salaires payés au niveau du secteur des services? Généralement, ceux qui font les travaux de la terre ont une faible rémunération. Dans un premier temps, s'il faut répondre au problème de la faim, oui. Mais il faudrait penser à la création d'une industrie qui pourra transformer le produit de l'agriculture en produit...
L'agro-industrie, par exemple.
Oui. Et là, déjà, nous sommes en train de quitter l'agriculture pour aller vers le secteur secondaire. Donc, il y a besoin d'une dynamique. Et lorsqu'on parle d'une économie émergente, il faut comprendre que l'émergence n'est pas dans l'agriculture. Mais on doit relancer l'agriculture et ensuite être capable de transformer le produit de la terre en des produits de plus grande valeur. Parce qu'aujourd'hui, la RDC contribue faiblement à ce qu'on appelle la chaîne de création des valeurs à l'échelle mondiale.
Comment vous faites un rapprochement théorique, réellement, à travers ce que vous dites, entre les analyses théoriques que vous donnez, les données réelles, parce que la population ne semble pas croire quand vous parlez d'une croissance économique pour le pays, et on ne sent pas ça, vous parlez du secteur minier, alors qu'au budget, on ne sent pas ça. Comment de données pratiques par rapport à tout ce que vous nous expliquez?
Il faut faire des réformes profondes au niveau du système fiscal. Ça, je suis tout à fait conscient de ça. Nous devons mettre sur pied des outils de gestion efficace pour que l'on puisse collecter plus d'argent au niveau de nos régies financières. Il y a besoin de faire des réformes profondes. Je pense que moi, j'estime qu'il faudrait qu'on puisse mettre sur pied un système intégré de gestion des finances publiques, mais informatisé, pour pouvoir capter le plus possible de recettes et éviter ou réduire au strict maximum tout ce qui est coulage. Et cela est possible, mais il faudrait bien sûr penser à mettre sur pied un système de type single windows qui connecterait toutes les...
C'est-à-dire
un système informatisé qui connecte toutes les régies financières et qui permet de suivre au jour le jour les différentes opérations effectuées par ces régies financières. Quand quelqu'un fait une déclaration, au lieu du système, on capte l'information. Et si quelqu'un vient trafiquer l'information après, on sait voir que tel s'est logué dans le système et il a trafiqué. Et comme ça, une fois qu'on l'identifie, on punit sévèrement et les gens vont changer de comportement.
Mais le guichet unique, il ne peut pas aider parce que déjà, on sait qu'il y a certaines régies financières dont la DGDA qui a créé le guichet unique pour éviter aussi tout ça.
Qui gère le guichet unique aussi.
Ouais.
Non, le guichet unique a été, on a commencé en 2002-2003 à mettre en place un guichet unique, mais la solution qui a été proposée n'est pas encore celle qu'il faut. Il y a besoin d'approfondir les réformes. J'ai participé moi-même à ces travaux, autrefois lorsque j'étais à la primature, et il y a eu beaucoup de discussions autour de la table. Les acteurs qui sont impliqués dans le système, que ce soit la DGIDA, DGI, même ONATRA, ne se mettaient pas d'accord autour de cette question. Et pourtant, le système devrait apporter plus en termes de transparence et aider le pays à collecter davantage en termes de ressources.
Voilà, on va finir. Un mot sur votre livre pour conclure.
Ok, le livre, je l'ai écrit à la suite d'une demande que j'ai observée. Mes étudiants m'ont poussé à écrire ce livre par l'intérêt et les questions qu'ils m'ont posées durant mes enseignements. Et j'ai remarqué qu'il était important pour moi d'écrire non seulement le livre, et aussi d'enrichir la compréhension de la croissance en parsemant mon exposé d'expériences vécues par les pays africains. Et ça pour montrer que certains pays sont en retard en Afrique et d'autres sont en train d'avancer. Et qu'est-ce qui manque que ceux qui sont en retard ne puissent pas rattraper les pays riches? Donc à partir de ces illustrations, il est justement possible de comprendre les forces des uns en termes de conception et de mise en œuvre de politique économique et les retards qui sont ceux de certains pays et les barrières qu'il faudrait faire tomber pour aller de l'avant. Je l'ai organisé en 5 chapitres, mais j'ai ramassé plusieurs aspects, plusieurs dimensions de la question. Et je pense que toute personne qui pourrait me lire pourrait se faire une idée claire sur ce qu'est la croissance, quels sont les déterminants de la croissance, quels sont les éléments qui peuvent jouer positivement, tout comme négativement sur la croissance, et quelle orientation peut-on prendre pour faire avancer les choses. Et le dernier chapitre du livre parle de la croissance en Afrique. Et j'ai parlé de ce qui a été observé de 70 à 2010 dans le continent, que ce soit dans la partie nord, partie centrale et partie sud du continent.
Voilà, c'est la fin de Panorama économique pour ce samedi. C'était Alexandre Chuembo Mokime. Il est enseignant en économie. C'est un économiste, vous l'avez d'ailleurs entendu parler d'un livre qu'il a écrit sur la croissance économique, une perspective africaine. Nous allons nous retrouver le week-end prochain. La présentation était signée Paul Matendo et François Kadima. Alors, nous allons retrouver également M. Alexandre Chouet dans certaines de nos émissions. Nous l'inviterons pour parler croissance économique, parce que c'est une matière très importante, Paul.
Tout à fait.
La technique était assurée par Patrick Kassongwa. L'émission a été coordonnée par Nicole Ngaka. On va se retrouver le week-end prochain pour un nouveau numéro de Panorama économique. Au revoir.